c'est pas du vent. François Bernard.
Deuxième partie de C'est pas du vent consacrée tout d'abord aux aires marines protégées, les AMP. Ce sont des espaces maritimes délimités sur lesquels on s'est fixé un objectif de protection de la nature à long terme. Mais cet objectif large est souvent associé à un objectif local de développement. Exemple avec le parc marin de Bambung dans l'estuaire du Siné Saloum. C'est à 130 km au sud-est de Dakar, au Sénégal. Reportage de Marie-Laure Josselin.
Voilà, vous voyez les dauphins. C'est des dauphins qui avancent à l'intérieur de l'AMP. Ils suivent les petits poissons. Voilà, ils jouent.
Dans une pirogue naviguant sur le bolon du Bambung, Ibrahim Adiamé, le président du comité de gestion de l'air marine protégée, se réjouit toujours à la vue des dauphins chassant les mulets.
Avant, on ne les voyait pas à l'intérieur de l'AMP. Mais on les voit tous les jours.
Avant, c'était avant avril 2003, date où l'AMP a commencé à être surveillée.
On est au col du Bambou, donc vous voyez les racines des mangroves qui sont pleines d'us. Hein. Vous avez vu les poissons, quand on passait, les poissons qui fuyaient, quand ils entendent le bruit du moteur, vraiment, la ressource est bien reconstituée dans l'AMP.
La différence est frappante. Lors du trajet pour venir vers l'aire marine protégée, les racines des palétuviers étaient quasiment vierges. Celles à l'intérieur du Bambou regorgent d'huîtres. Ici, comme dans tout le pays, les ressources halieutiques dépérissent, comme l'explique Jean Gupp, coordonnateur du projet pour l'Océanium, une association sénégalaise de protection de l'environnement.
Le Sénégal et sa zone côtière est particulièrement riche au niveau halieutique et il y a 600 000 personnes qui vivent directement et indirectement de la pêche. Or, depuis une dizaine d'années, on constate une diminution drastique de la quantité de poissons pêchés. C'est dû essentiellement à la surpêche, aux mauvaises techniques de pêche. Et donc, aujourd'hui, effectivement, il y a de moins en moins de poissons.
Sauver leur environnement, c'était le souhait des populations qui ont choisi le bolon du Bambung. Réputée zone de reproduction et de nourricerie pour de nombreux poissons, zone très appréciée des ostréicultrices et des pêcheurs. Et avec une seule entrée, c'était l'endroit idéal pour créer l'AMP. Désormais, un petit coin de paradis pour les poissons et les animaux. Ibrahim Adiamé.
Vous voyez les pieds là, avant la création de l'AMP, c'est des miradors qui avaient été construits par des chercheurs de Lamanté. Quand le Lamanté finissait de boire de l'eau, alors il la prenait. Ici, c'est une zone où les Lamantins viennent boire. Et jusqu'à maintenant, ils sont là. Donc les Lamantins sont là, paisibles, ils ne sont pas menacés. On est au Mirador. On est avec les surveillants qui vont faire la relève.
Je m'appelle Elas Ndour. Je suis un surveillant de l'AMP du Bambou. Là, on est sur le Mirador qui fait 10 mètres de hauteur. Et donc, qui était en face de l'entrée de l'AMP du Bambou, qui nous permet d'avoir tout ce qui va rentrer dans le bolon de Bambou. Vous voyez au bout de la mangrove, là, c'est la limite. Et là, le PCR peut commencer de là, aller jusqu'à l'autre côté. Donc, il y a les PCR qui viennent de PCR à cette blanc, qui ne savent pas bien ce qu'on fait ici. Mais dès qu'ils sont arrivés ici, on les sensibilise. J'ai dit, ah non, là, vous ne pouvez pas le faire. Dès qu'ils sont ici, notre comportement, ils sont reculés, ils sont partis. Donc, parce qu'ils savent bien, la zone, il y en avait des crevettes comme des gambas. Il y a des barracudas, otolithes, capitaine, carpourous, regita, parce que c'est notre intérêt même pour notre enfants.
Et depuis 2003, est-ce qu'il y a de plus en plus de pêcheurs qui viennent juste à la limite?
Oui, jusqu'aux limites de la Darouyeboué, qui jettent son lanque, parce que là, tout ce qu'ils attrapent là-bas, ce sont des grands poissons. Vous voyez les pirogues qu'on a vus tout à l'heure, ils viennent de naviguer vers nous, ils dérivent. Vous le voyez très bien là. Oui. Comme ils dérivent vers nous, on peut attendre, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Si avant il y en avait une bagarre même, il y en a qui viennent avec des coucoupes, des matraques, beaucoup de choses, qui essaient de batailler avec nous. On l'a empêché d'aller rentrer dans le bolon. Il y en a qui essayent même, qui viennent avec de l'argent, qui nous disent, bon, là moi j'ai 150 000, est-ce que vous pouvez me laisser 30 000 ou 40 000? Je peux passer après de sorte, on fait la business, on dit non. Parce que là c'est notre intérêt pour notre enfant. on ne peut pas gâter notre zone, notre ressource, on ne peut pas le faire. Pour cela, on refuse à cet argent.
Eladj est là pour préserver la zone et surtout sensibiliser. Et s'il le faut, il fait appel au lieutenant Nyang, le conservateur de l'AMP.
La répression, c'est notre dernier recours. Actuellement, ce que nous faisons, c'est essayer de sensibiliser la population sur le bien fondé même des ressources naturelles. Si c'est vraiment moi, là, le gars a peur, parce que c'est ce qu'il attend. Soit c'est la transaction, il peut faire même la prison. Oui, il y a des amendes. Donc ça dépend de l'infraction et du comportement surtout du gars. Si par exemple c'est un gars vraiment qui n'a pas riposté et qui n'avait pas également pris, là on peut le sensibiliser et lui donner un avertissement. Un récidiviste par exemple, il sera sanctionné.
Arfan Thior pêche depuis 40 ans. Il fait partie de ces vieux pêcheurs qu'il a fallu convaincre à renfort de cinéma débat et de longues discussions.
Il ne peut pas dire ça ne me plaît pas, il ne peut pas dire ça me plaît. Voilà, il est dans les deux côtés. Donc, c'est ça.
À Sipo, le village au bord de l'AMP, Delphine Diogoy, 28 ans, retourne chez elle. Quand elle ne ramasse pas des huîtres, elle vend des souvenirs aux touristes. Elle n'a pas vu d'un bon œil la fermeture du bambung, mais maintenant, elle comprend que c'est pour l'avenir des enfants, l'avenir de Margot qu'elle porte sur son dos.
Margot, bonjour. Merci. Avant, ça marche, mais maintenant, un peu. Tu prends un peu. Tu as vu bambou, c'est beaucoup là-bas.
Mais tu vas pas là.
Maintenant
ouais.
Non. Quand je vais aller là-bas, il va me prendre. Amène-moi à gendarmerie. J'ai peur. Le bambou. Avant, je n'étais pas contente, mais maintenant, je suis contente parce que j'ai compris pourquoi les gens disent on arrête à cœur bambou pour travailler là-bas. C'est bambou, un jour viendra, quand il ouvre, tout le monde il va travailler là-bas. Parce que je pense là-bas, maintenant il y a beaucoup de huîtres, il y a beaucoup d'escargots.
5 ans après la création de l'AMP, les résultats sont là. 23 nouvelles espèces ont été recensées et les gros poissons comme la carpe rouge ou le barracuda qui ne représentaient que 7% du peuplement atteignent maintenant 33%. Et pour continuer à faire fonctionner l'AMP, à payer les gardes, l'essence, un gîte écotouristique a été créé, explique Jean Gupp.
Dès le début, on a bien réfléchi à la chose. On s'est dit, ça ne sert à rien de créer une aire marine protégée qui soit sous perfusion de l'océanium, financièrement parlant. Hein. Il fallait vraiment que cette aire marine protégée soit durable et donc qu'elle génère des sous et des revenus. On s'était dit qu'on allait construire un gîte écotouristique. Puisqu'il y avait un potentiel naturel et écologique intéressant avec cet écosystème de mangroves. Et donc, dès le début, on s'est dit qu'on allait construire un gîte écotouristique.
Là, on a créé Campement écologique Cœur Bambou.
Pour Elad Jendao, le gestionnaire, et les habitants des 14 villages de la communauté rurale, le gîte est indispensable.
Ah, attention, là, c'est des singes. Hein. Ce qu'on vient de voir, là, ils se déplacent en famille.
Ce gîte est le poumon économique de l'AMP qui s'autofinance depuis mai 2006. En 2007, Cœur Bambou a généré de 26 à 27 millions de francs CFA, dont 3 ont été réinjectés dans la construction de salles de classe, de sanitaires dans la communauté rurale. Mais quelques problèmes subsistent, notamment les huîtres devenues trop nombreuses dans l'aire marine. Un plan de gestion est en cours pour trouver des solutions. Le bambung reste un exemple mondial de gestion des ressources par les communautés, dont beaucoup sont fiers, à l'image d'Eladj Ndao et Jean Gupp.
Je me sens utile hein, pour mon pays et pour ma communauté. Et donc je suis fier, quel que soit mon gagne-pain, là c'est sûr, je suis satisfait.
Il faut mettre en avant les bénéficiaires qui sont les populations locales et créer cette aire marine protégée avec eux. Pour avoir une chance qu'elle soit fonctionnaire et qu'elle contribue donc à la gestion des ressources halieutiques. Bambung a montré que c'est possible. On peut créer quelque chose qui marche. Alors 7000 hectares d'une aire marine protégée ne peuvent peut-être pas réenrichir les eaux territoriales sénégalaises, bien sûr. Mais ça peut montrer qu'on en a créé une. Ça peut qu'on en peut créer 5, 10, 20. Chaque village de la côte pourrait avoir sa zone protégée. À ce moment-là, on change la donne et on peut aller vers une gestion durable des ressources halieutiques et donc vers un développement durable. C'est une richesse économique, une richesse sociale, une richesse alimentaire. Si demain il n'y a plus de poissons, non seulement on a des problèmes économiques, mais on va vers des problèmes de santé publique. Mais en tout cas, on a montré avec le bambou que si on s'y prend bien, on arrive à créer quelque chose qui marche.
Thank you. Lefebvre, on vient d'écouter de ce reportage sur une aire marine protégée au Sénégal. Est-ce que vous connaissez cet espace Bamboung et ce programme de conservation?
Oui, cet exemple est très connu sur le plan international, c'est même une référence. Je crois que ce qu'il faudrait, un premier commentaire tout d'abord, si on écoute bien là, ce qui est dit dans ce reportage, c'est qu'on sent que les populations locales sont complètement concernées. C'est-à-dire qu'elles ont un intérêt majeur à faire en sorte que cette zone soit définitivement protégée parce qu'elles en ont les ressources, elles bénéficient des ressources naturelles dont elles vivent. Donc l'intérêt effectivement dans ce projet, c'est de faire en sorte, qu'on parle souvent de gouvernance, de mettre en sorte, faire en sorte que les populations et les communautés locales soient associées, bien là on est vraiment dans un système de gouvernance locale qui permet que cette aire marine protégée fonctionne et soit véritablement fonctionnelle et utile.
Même si on entend bien qu'il faut faire la police quand même, hein. Il y a des miradors,
oui,
il y a des gardiens.
Elle est d'autant mieux faite lorsque les communautés se sont investies de ce pouvoir de police, ça appartient à l'État, mais en tout cas de faire en sorte qu'il y ait des codes de bonne conduite entre l'ensemble des communautés locales pour que tout chacun respecte cette aire marine protégée.
Alors, est-ce que c'est une initiative qui correspond à ce que fait la nouvelle agence des aires marines protégées françaises?
Peut-être avant de parler de l'agence des aires marines protégées, si vous le permettez, j'aimerais bien quand même revenir sur cet exemple. Parce
oui,
que
oui, allez-y.
Il se situe quand même dans un ensemble, un réseau d'aires marines protégées de l'Afrique de l'Ouest qui est en train de se constituer. Donc cet exemple est une référence dans la constitution du réseau parce qu'il n'y aura pas d'avenir pour la ressource halieutique s'il n'y a pas une chaîne de sites d'aires marines protégées le long de la côte de l'Afrique de l'Ouest, ce qu'on appelle la Corne de l'Afrique, pour faire en sorte que ce soit l'ensemble de l'écosystème marin qui puisse bénéficier d'un certain nombre de relais, de relais d'aires marines protégées. Donc ça c'est très important. Il y a un travail essentiel qui est mené actuellement par Océanium avec les communautés locales qui est la reconstitution de mangroves.
Oui.
Les mangroves, vous savez, c'est un habitat un peu interface entre la terre et la mer, complètement essentiel à la reproduction de la ressource halieutique, puisque ce sont des zones en fait de frayères où les espèces peuvent se développer, se reproduire très facilement. Et donc, Océanium, cette année, a planté avec les communautés villageoises 6 millions de plants de mangroves pour reconstituer cette mangrove. Alors, si on regarde bien ce projet, il est exemplaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle, on a parlé tout à l'heure du changement climatique. Comment lutter efficacement contre le changement climatique et quel est le rôle des océans et des côtes dans la lutte contre le changement climatique? La mangrove a une particularité, c'est qu'elle d'abord elle séquestre le carbone et surtout toute la biomasse associée à la mangrove séquestre également le carbone. Oui. Donc ce qui paraît peut-être important pour l'avenir des recommandations que l'on peut faire en matière de lutte contre le changement climatique, c'est que ce type de projet puisse bénéficier des crédits carbone liés à la certification carbone.
Alors on sait
et
que
en
c'est
plus,
en cours.
Elle participe à la protection du littoral, ces fameuses mangroves. On l'a vu justement avec les zones cycloniques, et on l'a vu au Bangladesh par exemple, ils ont détruit une grande partie de leurs mangroves, ils se sont trouvés très très vulnérables.
Elle a évidemment beaucoup d'impact positif, elle limite les risques côtiers liés au tsunami. On a vu les conséquences du fait que les mangroves a disparu dans certaines zones littorales de la planète. Il faut quand même rappeler que 50% des mangroves de la planète ont disparu en un siècle. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner si on va au-devant de catastrophes.
Mais pour revenir à ce que vous disiez sur le marché carbone, on citait l'exemple la semaine dernière de Danone, par exemple, qui est une entreprise donc, qui va investir pour réduire elle-même ses émissions de carbone, finalement, dans des plantations d'air marine protégées.
Précisément, si vous parlez de Danone, Danone a signé un accord avec l'UICN et la convention de Ramsar sur les zones humides d'importance internationale, un accord qui a été signé à Changwon lors de la conférence qui s'est tenue en Corée l'année dernière, justement pour faire en sorte qu'une partie de la dette carbone du groupe Danone puisse être réinvestie justement sur des projets de reconstitution de la mangrove dans le monde. Et Océanium, d'ailleurs, va travailler sur un des projets financés par le groupe Danone. Donc ça va dans le bon sens. Je pense que ça va dans le bon sens. La mangrove est essentielle à la fois pour faire en sorte que les communautés locales puissent bénéficier de ressources, limiter les risques côtiers, et en même temps participer à la lutte contre le changement climatique.
Un dernier petit détail par rapport à ce reportage, ce qui était intéressant, c'était l'indépendance financière de Bamboung, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un gîte, par exemple, pour faire un peu d'écotourisme, tout ça, ça va dans le bon sens.
Alors, il faut en même temps qu'il y ait effectivement la possibilité d'avoir des ressources, notamment liées au tourisme, et en même temps, il faut aussi les limiter, c'est-à-dire que c'est une gestion équilibrée qu'il faut trouver, mais on peut faire confiance à nos amis sénégalais pour faire en sorte que ce soit respecté, parce qu'ils sont très attachés à leurs ressources naturelles, et donc en général les projets touristiques ne sont pas très développés.
Alors présentez-nous cette nouvelle agence française et son programme.
Alors l'agence des aires marines protégées françaises est assez récente, hein, 2006, avec une tâche gigantesque. Il faut savoir que la superficie maritime française, c'est 11 millions de kilomètres carrés. Donc si on regarde les engagements qu'a pris la France à Rio au moment du premier sommet de la Terre, ce qu'on appelle le chapitre 17 de l'agenda 21, qui consiste à faire en sorte que les États protègent et gèrent mieux les mers et les océans, la France a une responsabilité énorme, puisque si l'objectif de 10% de la mer doit être protégée, la mer française doit être protégée par l'agence, ça représente 1 million de kilomètres carrés. Vous imaginez la tâche qui est devant nous. Et cette tâche, elle est à réaliser à la fois dans les aires marines de la mer métropolitaine en Méditerranée, mais aussi dans l'océan Indien, dans la Caraïbe, et même dans le Pacifique Sud, en lien avec les collectivités du Pacifique Sud. Donc la tâche est gigantesque, puisque cette agence est nouvelle, et pour l'instant il y a très peu d'aires marines protégées en France.
C'est étonnant, comment on peut expliquer ce retard, parce que la France, évidemment, a cette superficie maritime tout à fait extraordinaire, et on a l'impression que finalement c'est un espace qu'on est en train de découvrir ou de redécouvrir.
Ouais, je crois que la France est un pays de culture, de ruralité, en fait c'est un pays rural, et non de maritimité. On est en train de découvrir la maritimité de la France et ce qu'elle représente en termes d'enjeux, non seulement économiques, mais surtout en termes d'enjeux de biodiversité. Il faut savoir que 99% de la biodiversité de la planète se trouve dans la mer et les océans. Donc si vous rapportez ce chiffre à la superficie maritime française, c'est-à-dire que les enjeux internationaux de la conservation de la biodiversité marine est vraiment très très important. Ils sont vraiment très importants.
Alors quelle est la stratégie face à cet immense défi ?
Alors, il faut bien sûr procéder par ordre. Alors l'agence dispose de nombreux outils quand même. La France est dotée de nombreux outils réglementaires pour développer les aires marines protégées. Il y a quand même les parcs nationaux. Il y en a eu peu puisqu'il n'y avait que le parc de Porquerolles. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le parc de la Guadeloupe a étendu sa compétence sur la mer. Donc c'est devenu aussi un parc terrestre et marin. Vous avez un projet de parc national dans les Calanques de Marseille. Vous avez également 10 projets de nouveaux parcs naturels marins. Donc un nouvel outil qui a été créé récemment en même temps que l'agence, qui va permettre de créer des aires marines protégées qui ne sont pas exactement des parcs nationaux, puisque la différence, c'est que ces aires marines protégées, ces parcs naturels marins, seront gérés très étroitement avec les acteurs, notamment le monde de la pêche.
On a calqué le système, finalement, qu'il y avait sur Terre de parcs nationaux. Enfin, qu'est-ce qui différencie la gestion de l'espace marin de la gestion de l'espace terrestre?
Je crois qu'il y a une grosse différence, c'est que les acteurs ne sont pas les mêmes. Je pense que la mer, vous savez, a souvent été considérée comme une zone de non-droit. Donc instituer le droit dans la mer, c'est quelque chose de complexe. Et comme aujourd'hui, la règle veut qu'en matière de gestion intégrée, on intègre les acteurs pour faire en sorte que ces aires marines protégées soient gérées avec les pêcheurs, tous les acteurs sur la zone, évidemment la démarche est un peu différente. La démarche est différente, elle nécessite une approche, je veux dire, plus douce. Je veux dire, il faut faire en sorte que, notamment le monde de la pêche, se sente concerné par la création de ces aires marines protégées, adhère à son principe et surtout en soit les gestionnaires avec les collectivités.
Oui, mais alors on imagine bien que ça peut quelquefois déclencher des conflits, parce que si on interdit aux pêcheurs de pêcher dans certaines zones, par exemple, c'est leur raison économique qui s'écroule.
Ce sont surtout la pêche de loisirs qui s'est sentie concernée, qui était opposée à une grande partie du parc de la mer d'Iroise. En fait, la pêche professionnelle est beaucoup plus concernée, je crois beaucoup plus intéressée par la création de ces aires marines protégées, parce que le monde de la pêche professionnelle a bien conscience que si on veut protéger la ressource et pouvoir continuer à gérer la ressource, il faut créer aujourd'hui ces grandes aires marines protégées.
Qu'est-ce qui différencie notre gestion, notre approche de ces espaces par rapport aux autres pays? On a vu que les Américains, par exemple, viennent de classer là une très grosse zone maritime. Quelle est la spécificité de l'approche française de la gestion de ces espaces marins?
Si on prend l'exemple des deux grands parcs naturels marins créés par les Américains, ça représente 1 million de kilomètres carrés. Donc pour l'instant, ça n'est que sur le papier. Je crois qu'il faut bien comprendre que créer de telles aires marines protégées, ça n'a de sens que si on voit à terme la mise en place d'un dispositif de gestion, de surveillance et surtout de connaissance des milieux, parce que connaître des superficies aussi grandes, ça nécessitera beaucoup de temps. Donc la démarche de l'Agence française des aires marines protégées quand même se base beaucoup plus sur une approche méthodologique qui consiste d'abord à avoir de vrais inventaires, d'avoir une meilleure connaissance sur les milieux, de cartographier de bien avoir une bonne représentation des enjeux, y compris économiques, sur la zone, pour faire en sorte d'abord qu'on identifie autant les enjeux de biodiversité que les enjeux économiques, pour qu'on puisse mettre en place un système de gouvernance et de bonne gestion.
Reportage de Marie-Laure Josselin, suivi d'un entretien avec Christophe Lefebvre, spécialiste des aires maritimes, en compagnie donc d'Anne-Cécile Bras et d'Arnaud Jouve. Cette émission a déjà été diffusée le 16 février dernier. Et demain, non pas demain, mais lundi, on retrouve notre reporter Agnès Rougier au Niger.
C'est pas du vent, @rfi.fr.
Il est l'heure, comme chaque jour de ce mois d'août, de TerraTech avec Dominique Dezonnet qui évoque aujourd'hui la création d'une nouvelle chaire dans une université parisienne qui s'appelle Optimisation et Développement Durable.
Bonjour et bienvenue dans TerraTech. Grâce à un partenariat, une nouvelle chaire polytechnique CNRS Microsoft Optimisation et Développement Durable a pu voir le jour. Nous verrons comment l'informatique et les mathématiques nous aident à résoudre les problèmes extrêmement complexes environnementaux.
TerraTech Actu.
En bref. Des nouvelles de la planète avec notre expert Jean-Paul Hébras, rédacteur en chef du mensuel Agriculture et Nouvelles Technologies. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour.
Un PC écologique en bambou, ça paraît surprenant, mais c'est ce qu'a proposé Michael Dell lors de la conférence Fortune Brainstorm dédiée au clean tech, technologie propre.
Ce PC consommerait 70% d'énergie en moins qu'un poste de travail traditionnel. Il est fabriqué à partir de matériaux recyclés, comme par exemple des bouteilles en plastique. Sa coque extérieure, elle, est en bambou. Aucune date de disponibilité n'a pour l'instant été communiquée.
Et ce PC devrait coûter entre 500 et 700 dollars.
TerraTech, l'entretien.
Microsoft, le CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique et l'École Polytechnique se sont associés pour créer la chaire Optimisation et Développement Durable.
Inaugurée officiellement le 3 juin 2009, la nouvelle chaire vise à développer des techniques et des outils d'optimisation qui pourront être appliqués à des problèmes réels liés au développement durable. Le contrôle de la consommation énergétique et la protection de la faune et de la flore feront partie des thèmes d'études de la chaire.
Pierre-Louis Gzek, chercheur et directeur des partenariats dans le domaine de la recherche Microsoft France.
Le développement durable combine trois objectifs, sociétaux, environnementaux et économiques. Définir une politique de développement durable, l'évaluer, en mesurer l'impact est un défi à la société, surtout si on prend en compte qu'on parle de politiques qui ont un impact dans un écart de plusieurs générations, dans un futur très lointain, et à partir de données que l'on a du mal à mesurer. Les informations sont parfois lacunaires, où on dispose seulement de statistiques. Eh bien, l'optimisation, qui est une branche des mathématiques, qui est présente dans la vie quotidienne des gens depuis très longtemps. Par exemple, l'optimisation de tournées de livraison est un problème modélisé et informatisé depuis les années 60. Lorsqu'il s'agit, par exemple, d'imaginer quel est l'impact de la perte de biodiversité à l'échelle d'une économie et de la société, on peut facilement imaginer que le problème de modélisation et d'optimisation qui en résulte est complexe à définir et les solutions sont complexes à imaginer. Et évidemment, les applications avec les technologies de l'information qui permettront d'adapter les solutions à chaque élément de notre environnement social, économique, sont difficiles à construire. Cette chaire, c'est, je vais utiliser des mots scientifiques, c'est une chaire qui s'attaque à des problèmes d'optimisation multi-objectifs stochastiques. Stochastique, c'est un mot savant qui dit que l'on s'attaque à des données qui sont définies de manière statistique ou aléatoire ou connues par des probabilités. Ce que l'on souhaite dans cette chaire, c'est y associer les équipes qui ont des problèmes à résoudre, des problèmes de très très grande échelle, c'est-à-dire des grands industriels, c'est-à-dire des administrations, l'État par exemple, et pourquoi pas des ONG également. Cette initiative, qui a son origine est assez modeste et vise à croître, est l'une des premières au monde. Et ce que l'on souhaite aussi faire, c'est travailler en réseau, faire de la recherche ouverte, créer des séminaires internationaux, des programmes de recherche, de façon à faire se parler des communautés, les mathématiciens informaticiens, les économistes, les spécialistes de l'écologie, qui ne se connaissent pas forcément, pour attaquer très spécifiquement des problèmes. Et d'ailleurs, nous allons travailler avec nos collègues américains sur ce sujet-là.
Compris, TerraTech, c'est terminé. Retrouvez toutes ces infos en ligne sur www.rfi.fr ou encore sur www.tvagri.info. Et si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez nous écrire à terratech@rfi.fr.
Merci Dominique Dezonnet. Rendez-vous lundi pour commenter l'actualité. Nous recevrons notre confrère de Microméga, Jean-Yves Casga. Voilà, c'est la fin de cette émission. Mes remerciements à tous ceux qui m'ont aidé à vous la présenter. Il s'agit de Sophie Janin, de Laura Podorowski et de Anaëlle Train aujourd'hui. Prochain rendez-vous donc, ce sera lundi. Ce sera même planète, même heure. Et vous vous demandez bien sûr en quelle langue vous allez entendre cette jolie phrase. Allez, je ne révèle rien. Vous essayez de deviner. C'est Vassilé qui nous l'a dit.
Aceeași planetă, aceeași oră.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Du roumain, bravo. Du roumain sur RFI, c'est tous les jours aussi. Des informations sur le site rfi.ro. À lundi.